Voyons ensemble comment gérer les conflits dans la famille. Les composantes dans la famille sont tellement différentes. Tout d'abord, l'homme et la femme sont différents. Puis les enfants, les garçons, les filles. On ajoute à cela les différences d'âge, qu'il est facile de créer une dispute. Bien souvent, la dispute suit ce cheminement. On commence par essayer de s'expliquer sur un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Très vite, on se dispute sur la façon dont on se dispute. Et là, les enfants, les adultes commencent à se faire mal. Dans le couple, on refuse d'accepter que le conjoint puisse penser d'une autre façon. Notre amour-propre peut être blessé et on peut se surprendre à aller jusqu'à insulter les membres de nos familles réciproques. Les adultes peuvent mettre plus de temps à pardonner que les enfants. Pour eux, une fois le conflit réglé, ils rejoueront ensemble rapidement. Au départ, il s'agit peu souvent d'un véritable conflit, mais plutôt de malentendus, de propos mal dits, mal compris, de choses bénignes qui prennent des proportions importantes. Pour les enfants, ce peut être un jouet que l'autre a cassé, mais la proportion que cela peut prendre chez l'enfant sera proportionnelle à l'attachement qu'il a pour ce jouet. Pour un ado, ce peut être plus sérieux. Les conséquences peuvent être aussi importantes dans un cas que dans l'autre. Le père est celui qui va tout mettre en œuvre pour amener la paix dans la maison. Dans Jacques 3, verset 18, nous lisons: Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Il faut faire preuve de souplesse afin d'harmoniser le point de vue des deux personnes, des enfants ou des jeunes adultes. Une des petites phrases importantes qui m'a interpellé quelque temps après m'être converti est celle-ci: La vie, c'est 10% ce qui arrive. 90%, c'est la façon dont nous réagissons. Le brave homme qui m'a dit ceci n'imaginait pas à quel point il allait me motiver. Au fil des années et des événements, j'essaie de réagir au mieux et de façon positive avec la parole de Dieu. Il y a souvent deux types de personnes, même dans la même famille. Il y a celles qui affrontent, elles vont faire face à la situation, l'affronter, prendre des responsabilités, répondre aux questions, assumer les conséquences. Et celles qui se replient. Ah, la situation les dépasse. Elles sont bouche fermée. Elles se replient sur elles-mêmes, ce qui en général aura la conséquence d'irriter encore plus la personne en face. Cette personne peut se replier sur elle-même sans répondre aux questions que l'on peut lui poser. Certaines ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Alors le premier point, c'est rester calme. Proverbe 12, verset 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Il est bon de respecter la différence de personnalité ainsi que le point de vue de l'un et de l'autre. Cela me paraît être la base pour aboutir à la gestion du conflit. Nous savons que la communication est l'élément principal de la relation dans la famille. Au sein de la famille, les personnes se connaissent si bien, elles sont tellement intimes qu'elles savent trop bien comment se blesser mutuellement. C'est pour cela que les disputes peuvent être très destructrices. Le deuxième point, c'est baisser la voix au lieu de l'élever. Le Proverbe 15, premier verset, nous dit: Une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Le fait d'amener les personnes à s'expliquer calmement, sans hausser le ton, sans accuser, juste de s'expliquer sur la façon dont elle l'a vécu, de parler sans accuser l'autre ou chercher à avoir raison. La même phrase, dite sur un ton différent, peut accuser, voire blesser, alors que la personne désire juste formuler ce qu'elle a vécu. Ensuite, réfléchir, réfléchir avant de parler. Proverbe 13, verset 3 nous dit ceci: Celui qui surveille ses paroles met sa vie à l'abri. Qui parle sans réfléchir s'expose à la ruine. Nous avons tous fait cette triste expérience de parler et à peine la phrase finie, nous pensions: Si j'avais su, je n'aurais pas dit les choses comme cela. Car ce que nous avions dit, nous l'avions dit sous le coup de la colère, pour avoir raison, pour justifier notre action. Il est bien question de prendre du temps, de réfléchir à la façon dont les choses en sont arrivées là. Comment cela a débuté et pourquoi? Ensuite, être humble et bon. Le Proverbe 13 au verset 10 dit ceci: C'est seulement par présomption, c'est-à-dire par orgueil, qu'on provoque des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Être capable de mettre son orgueil de côté dans ces moments-là n'est pas chose facile. Mais cela permet de pouvoir avancer dans la résolution du conflit. Ensuite, faire attention à la façon dont nous parlons. La parole de Dieu se suffit à elle-même. Lisons-la dans Jacques 3, versets 2 à 11. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Même si cela est difficile, il est nécessaire de parler et de communiquer dans le couple et dans la famille. Il est nécessaire de parler dans la famille. Il s'agit de ne pas laisser des situations confuses ou des incompréhensions sans dialogue, sous prétexte que le temps va arranger les choses. Éphésiens 4, 26 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Il est bon de vouloir régler le différend avant que la nuit arrive et que chacun se couche sur sa colère. Mon épouse témoigne qu'elle avait, avant sa conversion, comme des tiroirs dans sa mémoire, dans lesquels elle a enregistré et rangé tous les événements de nos disputes. Un beau jour, la somme d'événements accumulés était devenue si importante qu'elle a commencé à déprimer. Elle n'arrivait plus à me supporter. Elle a fini par penser quitter le domicile conjugal. En ne communiquant pas, chacun avait accumulé de son côté. Et la moindre incompréhension prenait des proportions énormes jusqu'à nous amener au point de rupture. C'est exactement ce qui se passe dans les familles où les parents et les enfants ne communiquent pas, ne prennent pas le temps de partager. J'ai rencontré une famille où tout allait bien. Les parents ne discutaient pas avec leurs enfants. Seulement, dès leur majorité, les enfants ont tour à tour quitté la maison. Et lorsque j'aurais posé la question « Pourquoi ?», savoir pourquoi ils partaient, chacun me répondait « On ne vit rien à la maison. » Dans les couples qui ne discutent pas également, les non-dits engendrent des situations soudaines, surprenantes. Je pense à une histoire vraie qui m'a été rapportée, comme quoi un problème manifesté peut en cacher un autre. Un peu comme les trains, un train peut en cacher un autre. Pour exemple, une épouse reproche à son mari de ne pas sortir les poubelles. En réalité, ce qui est caché, c'est que cela fait une semaine que son mari ne lui a pas dit un mot gentil. Elle en souffre au point qu'elle aimerait ressembler à la voisine qui se promène main dans la main avec son conjoint. Dans ce cas, les poubelles sont juste un prétexte. Lors d'une dispute, ce n'est pas parce qu'on a raison que le problème est résolu. Ne cherchons pas à l'emporter dans une dispute. Le but doit être de parvenir à une meilleure compréhension de l'autre. Vider son sac produit un seul effet, aggraver le problème, et la solution est rarement dans une telle attitude. Il faut rechercher la cause du problème. Et après avoir entendu les personnes, je vous soumets une proposition. La première, c'est pardonner. Dans Matthieu 6, au verset 12, il est bien dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Il est nécessaire que les personnes concernées se demandent pardon mutuellement et prononcent des paroles de pardon. Ensuite, établir un contact physique. Demander pardon à son conjoint en le prenant dans ses bras. Ça, c'est à conseiller plutôt que de rester chacun dans une pièce en prononçant des paroles de réconciliation. Concernant les enfants, c'est bien s'ils peuvent aussi se faire la bise. s'ils sont membres de la famille. Pour ma part, lorsqu'il m'arrive d'avoir un différend avec mon épouse, je ne peux m'empêcher d'aller la voir, de la prendre dans mes bras et de m'excuser auprès d'elle. Un jour, alors que nous étions blottis l'un contre l'autre, j'ai eu cette image qu'il n'y a plus d'espace entre nous. Et donc que l'adversaire qui veut nous séparer ne pouvait plus passer. Ensuite, bien entendu, comprendre, sans essayer d'avoir raison. Et s'il s'agit de comprendre ou simplement d'admettre que l'autre ne pense pas forcément comme soi, qu'il en a le droit et je dois respecter cela. Et bien sûr, prier. Remettre à Dieu le sujet du conflit. Il s'agit pour le couple de prier et de remettre le sujet du conflit à Dieu afin que notre Seigneur vienne manifester sa grâce en nous et entre nous, jusqu'à ce que nous puissions rire nous-mêmes de ce qui vient de se passer. Là où nous ne pouvons agir, soyons assez honnêtes pour laisser agir Dieu et prions ensemble pour reconnaître nos limites. En ce qui concerne les enfants entre eux, je les encourageais à prier l'un pour l'autre, une prière courte et de bénédiction. Bien souvent, cela se terminait par un tendre moment où ils pleuraient ensemble en regrettant ce qui venait de se passer. Ensuite, ne plus penser à ce conflit. On ne parle plus de ce qui vient de se passer et on ne le rappellera pas. La façon dont nous voyons l'autre n'est en rien altérée par ce qui vient de se passer et ne mettons pas une nouvelle étiquette sur son front. Par la suite, bien sûr, reconstruire la relation. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute recherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. L'amour est le moteur de la famille. Rechercher l'amour est préférable à l'orgueil de penser avoir raison. À très bientôt.